Bonjour, bonjour à tous. Mardi 28 novembre 2017. Vous êtes aux voix de service, c'est Louis de Bernis qui vous parle. Et vous avez déjà entendu la voix de Michel Audet ce matin et d'autres matins aussi. Bonjour Michel, comment allez-vous?
Bonjour Louis, ça va bien, on s'achemine tranquillement vers le froid.
Oh oui, on y est déjà un petit peu, là. L'air est frais ce matin.
Oui, ce matin c'est frisquet.
C'est frisquet, couvrez-vous bien. Plein de sujets pour vous, peut-être allons-nous nous réchauffer avec ces sujets. Nous allons voir quels sont les vôtres, Michel, ce matin.
De mon côté, je vous amène au Danemark,
ah,
particulièrement à Copenhague. On peut prendre de magnifiques photos d'ailleurs. Et vous connaissez, hein, Louis?
J'y ai été. J'y ai été une ou deux fois.
Et, vous savez, on suit maintenant les oiseaux, on connaît la vitesse, on connaît leur lieu de nidification. Bien, grâce à la technologie. Alors, vous parlez de la technologie qui est au service des ornithologues particuliers, plein d'autres choses, de petits sujets, de courts, de moyens.
Comme toujours. Oui. Pour ma part, nous aurons un sujet concernant une école pour enseigner l'art d'être Père Noël. Également, pourquoi pas, une reproduction chinoise d'un produit bien québécois. Et puis, pourquoi pas, la vie amoureuse des requins. On en parle si peu souvent.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est dans quelques instants.
Des mal-aimés, d'ailleurs. Alors, je vous amène faire un tour à Copenhague, que je ne connais pas très bien. J'y étais, mais assez brièvement. Et la capitale danoise est organisée, élégante, branchée, et sans oublier qu'on y mange très, très bien aussi. Il y a peut-être un petit bémol, c'est que la vie est chère.
Oh oui.
Très chère, hein? Une bonne façon de découvrir la ville, c'est d'opter pour un tour de bateau d'une heure sur des canaux, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. En effet, les monuments les plus importants sont construits au bord de l'eau ou à proximité. Il est aussi possible de louer, ça c'est intéressant, un petit bateau à énergie solaire qui s'appelle le Go Boat. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser le go-boat. On peut manœuvrer soi-même, sans permis. Et au milieu, vous avez une table à pique-nique. Et, vous pouvez prendre votre apéro ou un repas. Et, intéressant. Il y a des visites guidées à pied dans la ville qui sont offertes gratuitement, qui sont intéressantes si vous n'avez pas beaucoup de temps sur place. On va vous amener aux endroits les plus intéressants. Et vous allez découvrir rapidement la ville. On mentionnait que le coût de la vie est élevé à Copenhague, donc il y a beaucoup de camions de cuisine qui se sont rassemblés au Copenhagen Street Food, qui est facile d'accès, ça peut être en bateau à pied. Ben, offrir de la nourriture de qualité, faite sur place, bonne nourriture, à un prix raisonnable. Le quartier excentrique de Christiana, il vaut le détour. C'est une ancienne base militaire, qui a été reprise par des squatteurs, des chômeurs, des hippies, particulièrement dans les années 70. Aujourd'hui, le lieu est encore marginal. Il se veut libre, anticapitaliste. Et il y a près de 1000 personnes qui y habitent. On peut s'y balader au bord du canal, contempler les petites maisons colorées, architecture très particulière à Copenhague, hein, magnifique d'ailleurs. Et certains lieux sont interdits aux enfants et d'autres interdits à prise de photos. Vous savez pourquoi?
On y vend des petites choses, je crois.
On y vend des petites choses qu'on peut respirer.
Ils seront bientôt légales ici au Canada.
Et vous savez, le nom de la rue, où particulièrement on trouve ça, ça s'appelle la rue Pusher. Étonnamment, hein? Mm-hmm. Mais je ne sais pas si en danois, ça veut dire exactement la même chose. Probablement. Vous avez aussi le musée de Louisiana, à une trentaine de minutes de Copenhague, qui est un des plus importants musées d'art contemporain du monde. Les pavillons sont réservés aux enfants, où ils peuvent avoir des activités de bricolage, poterie, peinture. Et vous pouvez aussi manger dans des grands jardins en admirant des sculptures. Le parc Tivoli, c'est l'un des plus anciens parcs d'attractions du monde. Dans un espace vert, fleuri, on dit que c'est un paradis pour les enfants. Bon, aussi pour les grands, d'une certaine façon. En plus des jolis manèges, ils trouvent de nombreux cafés et restaurants. Et évidemment, le défaut de tous ces endroits-là, c'est souvent envahi, particulièrement en période de tourisme. impossible de passer à côté du design quand on va à Copenhague. Si vous aimez la décoration, le design, ne manquez pas la rue piétonne, et je m'excuse auprès des Danois pour l'accent, la rue Strøget. Et vous savez, le haut danois qui est avec une barre qui est peut-être un peu difficile pour nous. Et c'est l'une des plus longues rues du monde. Et c'est bien pour une séance de magasinage. Et on peut y trouver des œuvres danoises aussi. Ben, si on veut se déplacer en train, en bus, en métro et découvrir les nombreuses attractions de la ville, ben, surtout si vous y passez un certain temps, ben, il est judicieux de se procurer ce qu'on appelle la Copenhagen Card. Ça donne accès gratuitement à une panoplie d'activités, de musées, transports publics, et en plus d'offrir des rabais dans des restaurants. Alors, ces cartes-là, ces endroits-là, sont souvent très intéressantes si vous passez un certain temps. Parce qu'effectivement, vous avez des rabais, j'ai vu des rabais à certains endroits, de 20, 25 ou 30 % pour des entrées de musées, par exemple. Bien, c'est mieux de se la procurer avant d'arriver, c'est-à-dire même à l'aéroport ou en ligne. Alors, c'était un petit tour d'horizon, comme j'en ai fait un dans le temps, parce que j'avais fait le tour du Danemark. Danemark aussi, je cherche les autres, là, vous avez, en tout cas, tous les pays environnants, si on veut, à partir de Saint-Pétersbourg en Russie. Et c'est une tournée qui se fait très bien. Vous avez un bateau qui passe d'un endroit à l'autre. Tu sais, ça peut être très intéressant. Voilà, petit voile d'oiseau à Copenhague.
La semaine dernière, j'avais évoqué à tort Noël. Il était trop tôt et Jean-Sébastien m'avait repris à juste titre. Mais cette fois-ci, je crois que j'ai bien le droit d'en parler. On est maintenant à moins de 30 jours de l'événement. C'est bon, j'ai le feu vert de l'autre côté de la vitre. Alors c'est parti, je vais vous parler ce matin d'une école pour enseigner l'art d'être magique au Père Noël. Rien de moins. Allons à Londres. Ho ho ho, à l'approche des fêtes de fin d'année, dans cette classe d'un genre très spécial à Londres, ce ne sont pas les sciences ou l'histoire qui sont au programme, mais l'art et la manière d'incarner le Père Noël idéal, celui qui fera briller les yeux des enfants. Car un bon Père Noël, cela ne s'improvise pas. Tranche James Lowell, 52 ans, qui se targue de former la crème des Santas dans sa Santa School au sein de son entreprise d'animation événementielle Ministry of Fun. C'est important, les enfants viennent le voir car c'est une personne spéciale, dit-il. Pas question donc qu'il soit déçu après parfois des heures de queue pour pouvoir l'approcher et lui parler. Il faut que la rencontre soit magique, maître mot du formateur qui ne se remet toujours pas d'avoir croisé des Pères Noël en basket ou cigarette à la bouche. Pour être à la hauteur, il y a d'abord le costume qui se doit d'être de qualité et non un vulgaire déguisement. Taillé dans un épais velours rouge, celui porté par les élèves de la Santa School, il coûte la bagatelle tout de même de 1000 livres, soit environ 1 700 $ canadiens. Tout comme la barbe factice, fabriquée à la main, précise James Lowell. Mais l'habit ne fait pas tout, ne fait pas le moine et encore moins le Père Noël. Il faut aussi savoir se mouvoir d'une démarche chaloupée et faire retentir un sonore et gay ho ho ho. Être polyglotte pour pouvoir tonner « Joyeux Noël » dans toutes les langues et également connaître les noms des 9 reines du Père Noël. Il y a également quelques règles d'or à respecter, comme ne jamais demander à un enfant comment il s'appelle, s'il a écrit sa lettre ou encore quel cadeau il a demandé. Car vous savez, vous êtes magique, vous êtes Santa, claironne James Lowell. Ne jamais faire de promesses non plus pour ne pas mettre les enfants dans l'embarras et créer la déception. Face à lui, ce jour-là, une dizaine de Pères Noël, apprentis ou déjà confirmés, sont installés, costumés de pied en cap. Ils prennent sagement des notes ou participent à des jeux de rôle censés les préparer à toute éventualité, comme la fatale question « Est-ce que tu es le vrai Père Noël ?» Un bon Père Noël doit aussi potasser chez lui, à la maison, pour se tenir au courant des jouets ou consoles de jeux à la mode. Nous devons faire des recherches pour savoir ce qu'il y a sur les rayonnages des magasins, déclare Santa David, ravi d'exercer le plus beau métier du monde depuis 26 ans. Chaque année, depuis 1998, ils sont une quarantaine, en majorité des acteurs, mais aussi d'ex-enseignants, à suivre la formation de la Santa School, avant de s'éparpiller entre autres dans les grands magasins londoniens qui tous proposent une grotte du Père Noël. Pour Santa Dan, un acteur qui a déjà revêtu l'habit rouge et blanc 14 années de suite, il n'y a rien de plus réjouissant que de voir la réaction des enfants. En général, ils ne disposent que de 3 minutes pour les émerveiller au vu des files d'attente. Malgré le poids du costume, la chaleur et le bruit qui règne dans les magasins, il faut savoir maintenir l'énergie pour faire sentir à tous les enfants, le premier comme le dernier, qu'il est spécial, dit-il. Selon lui, le mythe continue à prendre parce que le message du Père Noël est celui de la générosité, de la gentillesse. Il est devenu une figure symbolique, mais pas dans le sens religieux, celle de la figure qui rassemble, famille, amis, renchérit James Lowell, qui souligne que, derrière le battage marketing qui peut lasser, il y a un message très positif, plein d'espoir. Il ne fait de mal à personne, les enfants y croient parce que les adultes veulent y croire aussi. Voilà, il est peut-être encore temps de vous rendre à Londres si vous voulez suivre une formation express et ensuite bah, vous diriger vers des vrais Pères Noël, ils sont tous vrais. Oui.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all here's a reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children sing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, well, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight.
Alors Elvis qui a toujours donné une touche particulière à tout ce qui touchait, hein? Je pense qu'on peut le reconnaître un peu partout. Oui, tout à l'heure, j'ai eu une hésitation quand je parlais du Danemark, je parlais des pays environnants. Bien sûr, je faisais référence à Finlande, Suède, Norvège. Et souvent, c'est en partance, comme je le mentionnais, de Saint-Pétersbourg, ce qui fait une tournée assez intéressante. Vous savez, la semaine passée, je vous parlais de la voiture autonome qui est en bonne voie de réalisation et particulièrement à Google. Mais dans le grand public, toutefois, les opinions restent quand même assez partagées. Certains rêvent déjà du jour où l'auto affrontera les intempéries, les bouchons de circulation pendant qu'on pourra piquer un petit roupillon ou qu'on lira les nouvelles sur sa tablette. Mais il y a une bonne partie des automobilistes qui ne font même pas confiance aux régulateurs de vitesse de leur véhicule. Alors, selon un sondage de l'Université du Michigan, un automobiliste sur deux ne veut rien savoir de la voiture autonome. 50%, hein? Fait intéressant, 95% des répondants précisent également qu'ils savaient à conduire une voiture autonome ou à ne pas conduire. Il voudrait que celle-ci dispose quand même d'un volant, d'un accélérateur et d'une pédale de frein pour pouvoir prendre le contrôle à tout moment. Il faudra donc attendre un certain temps avant que le conducteur se laisse convaincre. Un autre coup dur pour la voiture autonome, c'est qu'en mai dernier, il y a un Américain du nom de Joshua Brown, 40 ans, qui a perdu la vie lorsque sa voiture autonome, qui était une Tesla, n'a pas freiné devant le semi-remorque qui lui a coupé la voie. Et la luxueuse berline a traversé le poids lourd, tuant son occupant sur le champ. Même alors, le système de pilotage automatique n'a pas commandé le freinage. La voiture accidentée a poursuivi sa course sur près d'un kilomètre avant d'engloutir une clôture et de s'arrêter finalement contre un poteau. Donc, il aurait pu y avoir des piétons alentour. Donc, on a encore un certain doute face à la voiture autonome. Et qu'en est-il de l'avion? Ben, l'avion commercial sans pilote pourrait devenir réalité d'ici 2025. Et ça, c'est des experts de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales qui nous disent. En France, ils étudient cette possibilité depuis 2004. Et donc, c'est assez avancé. L'automatisation des dernières années dans le domaine des transports, les drones, les voitures sans conducteur, a accéléré les études de faisabilité. En 2013, l'avionneur britannique BAE a fait voler sans pilote un jet de 19 places sur 800 km à l'intérieur de l'espace aérien commercial. Et seul le décollage et l'atterrissage ont requis une intervention humaine. Équipé d'un système de détection, l'appareil pouvait éviter des objets, choisir un itinéraire en fonction de la météo, repérer au sol les zones les plus propices en cas d'atterrissage d'urgence. Et à la mi-juin 2015, un petit avion de 4 places de l'entreprise Aurora Flight Science a volé sans pilote aux États-Unis. Et c'était une première. Il était commandé au sol par l'équipe de l'entreprise. De là à imaginer des taxis volants sans pilote, notamment pour de courtes distances, ben, il n'y a qu'un pas. Et la technologie sera au point dans quelques années. Et c'est le milieu de l'aviation qui nous dit. Et ben, vous voyez que je mentionnais tout à l'heure, je pense que 50% des gens ne font pas confiance. Ben, ça nous donne une idée pour l'avion, hein, parce qu'il nous reste un obstacle qui risque de ralentir la multiplication des vols. Ben, l'obstacle, c'est le sentiment de sécurité des passagers. Vous savez, ça fait du bien d'entendre le pilote en avant, tu sais. Et si Louis de Bernis, qui sera aux commandes pour les 2 prochaines heures...
Tout de suite, très voilà, rassurant.
Et tout de suite, on est rassuré immédiatement. Je suis pas sûr si j'entends de ça demain dans l'avion. Mais quand même, c'est un sentiment de sécurité. Alors, je sais pas... vous n'entendez rien du tout et quand vous passez près du cockpit, il n'y a personne. Ça m'inquiète un peu. On n'est peut-être pas rendu là encore.
Il faut croire en sa bonne étoile.
Oui, oui.
Parlons de la Chine, ce grand pays fascinant parfois et qui est un véritable pays-usine, comme disent certains. On y fabrique de tout,
ah oui.
On y copie de tout aussi. Et il va y avoir un produit qui va être fabriqué, qui est une copie d'un produit, entre guillemets, québécois dont je vais vous parler. Il s'agit ni plus ni moins du vieux Québec. La construction d'une réplique du château Frontenac et d'une partie du vieux Québec est perçue d'un bon œil par la direction de l'établissement hôtelier. Lundi, il y a 2 semaines environ, Le Devoir soulignait qu'un groupe d'investisseurs chinois envisageait de reproduire le célèbre établissement de la haute ville à Kidong, une municipalité près de Shanghai. C'est l'entreprise JC Group qui pourrait piloter le projet baptisé Art City of Ocean Culture. Le complexe comprendrait un hôtel, des résidences, une salle de spectacle, une école internationale ainsi qu'un parc thématique. Le développement se réaliserait en différentes phases. Les travaux sont commencés depuis quelques mois en fait. La première phase sera complétée à l'été 2018. À terme, l'ouverture complète du site d'une superficie de 3 km² est prévue pour 2022. Il n'y aura jamais rien de mieux que l'original, indique avec humour Anne-Marie Pinchot, responsable des communications au château Frontenac. C'est une bonne nouvelle lorsqu'on pense à la visibilité de la région. La série coréenne Goblin nous avait amené beaucoup de visibilité. Pourquoi pas en avoir plus? Ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. On espère toutefois que cela soit bien réalisé, poursuit-elle. Madame Pinchot n'a pas voulu s'avancer quant à la possibilité de voir des responsables du château Frontenac collaborer avec les promoteurs. Elle estime qu'il va être très difficile de faire une copie conforme de l'édifice qui soufflera ses 125 bougies en 2018. Cela peut être une inspiration, mais je ne pense pas que cela soit possible de faire la même chose. Le château est un lieu historique, dit-elle. Les concepteurs du développement étudient également la possibilité d'ériger une réplique du Cap Diamant. Le projet sera réalisé en partenariat public-privé. Le gouvernement local choisira au cours des prochaines semaines l'entreprise retenue pour concevoir une réplique du Vieux-Québec. Ce n'est pas la première fois que des investisseurs chinois cherchent à construire une réplique d'un élément d'une ville. Il y a notamment, par exemple, une tour Eiffel dans la ville de Hangzhou, à environ 200 km de Shanghai, ainsi qu'une copie d'une partie du quartier de Manhattan à Tianjin. Voilà pour toutes ces répliques qui voient le jour du côté de l'Asie. Reste à savoir effectivement si ce sera bien fait dans les règles de l'art.
Oui. Vous savez que sur mon passeport, mon lieu de naissance, c'est la Chine. Hein? J'ai déjà mentionné. Hein? Mais c'est la Chine au bout de, le bout de l'île à Montréal.
Est-ce qu'il vous laisse rentrer plus facilement? Là est la question.
J'ai pas eu d'avantage jusqu'à maintenant, d'aucune façon. Je viens de faire une découverte en paléontologie. Les vestiges d'un oiseau vieux de 100 millions d'années ont été retrouvés dans un morceau d'ambre. Vous savez, la lambre, c'est une résine jaunâtre qui est souvent associée à des découvertes d'insectes fossilisés, tels que ça a été représenté dans le fameux film Jurassic Park. Ben, ce morceau d'ambre est unique, puisqu'il renferme l'oiseau le plus complet, le plus détaillé jamais découvert. Et on parle de 100 millions d'années. Il contient la tête, le cou, l'aile, la queue, et même la patte d'un oisillon qui venait d'éclore depuis à peine quelques jours. Il s'est trouvé emprisonné dans la résine, résine qui s'écoule d'un conifère. Bien que la peau et la chair de l'oiseau semblent avoir été préservées, il s'agit seulement d'une empreinte, et il n'y a pas la moindre trace d'ADN. L'oiseau en question n'est pas un ancêtre direct des espèces modernes. Il s'agit plutôt d'une espèce appartenant à une autre lignée d'oiseaux. Parce qu'il possédait une mâchoire, des dents, ainsi que des griffes sur les ailes. C'est pas ce qu'on retrouve actuellement. Hein? Alors, leur lignée était apparemment plus diversifiée, vouée à un plus grand succès que celle des oiseaux modernes. Ils ont tout de même disparu en même temps que les dinosaures. Mais la description qu'on nous en fait, c'est une espèce de parenté avec les dinosaures. Donc, en même temps que les dinosaures, disparition, il y a quelque chose comme 66 millions d'années. Alors, la cause de leur extinction demeure assez nébuleuse. Alors, le morceau d'ambre provenant de Birmanie était conservé dans un musée en Chine depuis quelques années, avant qu'on réalise seulement récemment l'ampleur de cette découverte. Vous imaginez un oiseau vieux de 100 millions d'années et complètement différent des oiseaux qu'on trouve actuellement. Grande découverte pour la paléontologie.
Retournons à Londres. Il n'est plus question de Père Noël, mais d'un match de soccer particulier qui a donné lieu à deux buts, même trois, mais pour l'attaquant, deux buts et un bébé. Sacré tour du chapeau pour Ryan Colcove, mardi soir, il y a une semaine. Un but en première période, un deuxième à l'heure de jeu, en deuxième période, et puis la naissance de son deuxième fils dans le temps additionnel. L'attaquant de 22 ans de Wigan a même célébré son deuxième but contre Doncaster, en sortant directement du terrain pour filer à l'hôpital où sa compagne l'attendait en salle d'accouchement. Il a déclaré, littéralement, juste avant de marquer, « J'ai vu mon père en tribune me faire le signe qu'elle avait perdu les os. J'ai attendu un peu, j'ai marqué et puis j'ai couru prévenir l'entraîneur. Il m'a dit de sortir, je suis parti direct dans le tunnel, j'ai attrapé mon premier fils pour filer à l'hôpital, toujours en short et en crampons. Le bébé est né une demi-heure plus tard, il pèse 3,6 kg et se porte très bien.
Alors, on va rester en Angleterre. Vous savez, le proverbe « qui dort, dîne ». Mm-hmm. Eux autres, ils ont « qui dort, Jim ». afin de combattre la fatigue et le manque de sommeil qui atteindaient des proportions épidémiques en Angleterre. Ben, un centre sportif en banlieue de Londres propose des séances de sommeil. Après 15 minutes d'exercice d'étirement, ben, les abonnés de ce club de gym peuvent se glisser sous la couette pendant 45 minutes et piquer un petit roupillon au sein d'une musique apaisante. Donc, au lieu de dormir au bureau, ben, on dort au gym juste un peu avant.
La fin de l'année approche et il est temps de penser au calendrier de celle qui suit. Eh bien, j'ai une proposition originale pour vous. Un autre calendrier de pompiers? Non, non. Les gens qui y posent sont flambant nus, oui, mais ce ne sont pas des pompiers, ils sont apiculteurs. L'entreprise montréalaise Alvéole, qui exploite des ruches en milieu urbain, sur les toits notamment, et en a plusieurs à Québec aussi, lancera en décembre un calendrier montrant des bergers et bergères d'abeilles dans leur plus simple appareil. Pour la compagnie, il s'agit bien sûr d'un coup de pub, mais le but est aussi et surtout de sensibiliser les gens à l'importance de préserver les pollinisateurs et l'environnement et de leur montrer que la présence des abeilles n'est pas dangereuse. Pour en avoir vu quelques photos sur le site du Soleil, ça vaut le détour, c'est assez amusant. Et ça ne pique pas.
Une nouvelle un peu inquiétante, la fonte du pergélisol en Sibérie, vous savez, le sol qui est en permanence, fait craindre une résurgence de la variole. On a en fait trouvé le virus dans des corps emprisonnés depuis des années dans le sol gelé dans cette région. Or, ça fonde de plus en plus rapide. Réchauffement de la planète, bien sûr. De plus en plus rapide, chaque été pourrait libérer de micro-organismes et déclencher une nouvelle épidémie. Et on sait que cette maladie qui est éradiquée maintenant a fait des millions de morts au cours des deux derniers siècles.
Donc, faisons attention à notre planète.
Oui, tout à fait.
Nous prenons une courte pause avant de vous retrouver avec bien d'autres sujets de voyage intéressants et excitants, j'ai envie de dire. À tout de suite après cette pause.
This is good. retour en 1999 avec la musique quelque peu hypnotique de Moby et la pièce Porcelaine.
Oh, une chance qu'on n'a pas été hypnotisé. Hein? On est à l'affût. Alors, la haute technologie au service de l'ornithologie, ben, vous vous doutez que ça provient de Québec Oiseau. Source inépuisable d'informations. C'est probablement depuis la nuit des temps que l'homme s'interroge sur la disparition et le retour des oiseaux selon les saisons. Ce phénomène a donné lieu à toutes sortes de théories, toutes sortes de fabulations aussi. Et il y a 2300 ans, Aristote savait que des grues voyageaient des steppes d'Europe jusqu'au marais du Nil. Mais il y avait toutes sortes d'interprétations, parfois un peu farfelues. Or, nos connaissances ont bien évolué depuis ce temps-là. Des observations, des inventaires ont permis d'élimiter les aires de nidification et d'hivernage, ainsi que les corridors de migration. Dans les 100 dernières années, le bagage de millions d'oiseaux à préciser encore plus ces informations. Quand je parle de bagages, vous aurez compris que ce n'est pas les valises ou quoi que ce soit, c'est le fait de poser des bagues d'identification aux oiseaux pour être capable d'y suivre. De nos jours, les biologistes disposent de technologies de pointe afin d'étudier les liens entre des territoires de reproduction, les routes migratoires et des quartiers divers, qui sont souvent très éloignés. Hein? Et de plus en plus, on s'aperçoit que les stratégies varient entre les différentes espèces. Des émetteurs satellitaires, qui fonctionnent, dans le fond, sur le même principe que le GPS, sont des outils de choix, parce qu'ils fournissent assez facilement des données, mais très précises. Divers migrateurs ont été équipés avec succès et nous révélant comment ils accomplissent leur cycle annuel. Ainsi, les faucons pèlerins nichant dans l'Arctique peuvent parcourir plus de 12 000 kilomètres pour passer l'hiver en Amérique du Sud. Et les comportements migratoires sont très variés, même au sein de chaque population. Un exemple, une nichée ontarienne de faucons pèlerins. Voici un des jeunes est parti hiverner en Nouvelle-Écosse. Un autre, de la même nichée, hein? Un autre est parti en Californie, lui, il préférait la Californie. Et un troisième est parti en Amérique du Sud. Donc, la famille était dispersée. Et le faucon pèlerin porte bien son nom. Hein? La plupart des migrateurs sont toutefois plus routiniers, ce qui permet d'établir plus facilement les liens. Des émetteurs satellitaires permettent aussi de suivre les stratégies alimentaires qui sont adoptées selon les proies disponibles. En 2003, on a scruté les habitudes des fous de bassin de l'île Bonaventure, qu'on connaît bien ici en Gaspésie, et ceux de l'île de Funk, au nord-est de Terre-Neuve. Alors, les caplans abondent dans la région de l'île Funk. Le petit poisson était présent près des côtes, ce qui rendait sa capture relativement prévisible et facile. Tandis qu'à l'île Bonaventure, dans les eaux plus tempérées, les fous capturaient principalement du maquereau. Et leurs expéditions de ravitaillement duraient en moyenne 28 heures. Claude, hein, partir en mer 28 heures et couvrait 432 kilomètres. La situation a changé radicalement en août 2012. Je parle des fous de bassin. Les fous de l'île Bonaventure désertent la colonie. La nourriture semble rare et c'est pratiquement en vain qu'ils patrouillent le golfe, la basse côte nord, le Saguenay et même en passant par les îles de la Madeleine. Alors, certains des fous de bassin partent pour près de 5 jours en mer. Et la plupart reviennent au nid amaigris. On les comprend après 5 jours en mer à voler. Hein? Et ils n'apportent que très peu de nourriture à leur rejeton. Alors, l'année 2012 fut désastreuse avec un succès de reproduction de seulement 8%. L'eau était particulièrement chaude, donc les poissons s'éloignent à ce moment-là vers les eaux plus froides. Alors, depuis, la situation s'est améliorée pour les fous de bassin. Bien, il faut un succès reproducteur d'environ 67% pour maintenir la colonie stable. Et on parle de 8%. Donc, il y a un manque. Hein? Et ce seuil n'a pas été atteint depuis 2005. Il y a 30 ans, les émetteurs satellitaires pesaient environ 180 grammes, ce qui n'est pas énorme quand même. Et on ne pouvait les placer que sur des gros oiseaux. Aujourd'hui, on produit des émetteurs qui pèsent seulement 5 grammes. Incroyable, hein? Mais c'est encore trop lourd pour certaines espèces. Un colibri, peut-être, entre autres choses. Les ingénieurs ont mis au point des appareils plus légers qu'on appelle des géolocalisateurs. Et ces appareils enregistrent des données pendant un an, Mais évidemment, il faut être en mesure de récupérer l'appareil pour pouvoir accéder aux données. Il faut que l'oiseau soit fidèle à un site de nidification pour qu'on puisse le retrouver ou à une halte migratoire. Et malgré ces contraintes, les géolocalisateurs livrent des secrets sur les routes et les performances des différentes espèces. Tout au cours de sa vie, ça c'est étonnant, un oiseau renouvelle son plumage. La plupart des passereaux font une mue après la nidification et juste avant de migrer, et une autre sur le site d'hivernage. La composition chimique d'une plume peut indiquer dans quelle région elle a poussé et dans certains cas, l'habitat et même le régime alimentaire de l'oiseau. Les chercheurs examinent plus particulièrement les teneurs en isotopes stables, qui révèlent plein de choses. Ces éléments se trouvent partout dans l'environnement, sont incorporés dans les plantes par l'intermédiaire des sédiments et de l'eau aussi. Ils entrent donc dans la chaîne alimentaire. Et chaque région possède une proportion spécifique d'isotopes, et c'est une espèce de signature, si on veut. Un réseau canadien de surveillance des migrations recueille des données à long terme sur la situation et les tendances des populations d'oiseaux. Et le déclin d'une espèce dans une région peut parfois se trouver son origine à des milliers de kilomètres. Et c'est influencé par l'endroit où il va se... La qualité de l'habitat dans les quartiers d'hiver aurait une influence non négligeable sur le succès de reproduction. Certains mâles reviennent en mauvaise forme, il paraît, mais certains mâles en mauvaise forme pouvaient combler en partie leur handicap en s'appariant avec une femelle qui était en bonne condition. Donc, à ce moment-là, ça donne des oisillons assez forts tout de même. Alors, si on veut assurer leur pérennité, il est primordial que les migrateurs bénéficient d'habitats de qualité tout au long de leur cycle vital. Ah voilà, c'était la technologie qui est capable de suivre les oiseaux et de nous dire qu'ils parcourent des milliers de kilomètres. Voilà.
Pendant la pause à la simple lecture des titres de nos articles, nous disions qu'il n'y avait aucun lien. Eh bien, il y en a un, en fait, en vous écoutant, Michel, parce que je ne parle pas d'oiseaux du tout. Je vous parle de requins, mais vous allez voir qu'il y a tout de même des liens. Un grand requin blanc populaire sur les médias sociaux, c'est possible, a décidé de prolonger son séjour dans le Canada Atlantique, une preuve de plus aux yeux d'un chercheur, que les eaux de la Nouvelle-Écosse sont devenues un haut lieu de la vie amoureuse des squales. Le groupe américain O-Search a relaté sur Twitter les voyages effectués par un requin de 600 kg nommé Hilton le long de la côte Est au cours des derniers mois, charmant quelques 17 500 abonnés avec des messages empreints d'ironie. Hilton, qui a été étiqueté par O-Search en Caroline du Sud au mois de mars, a fait sa première apparition au large de la Nouvelle-Écosse au début août. Il a fait sa plus récente escale dans la baie Mahon. Selon le fondateur d'O-Search, Chris Fisher, Hilton semble chercher l'amour au sud de la Nouvelle-Écosse et il croit que le requin aura l'embarras du choix. Monsieur Fisher a révélé que son groupe de recherche, basé aux États-Unis, espérait obtenir la permission d'Ottawa pour lancer une expédition dans l'est du Canada l'automne prochain afin d'identifier les potentiels sites d'accouplement de squales dans la région. Il a ajouté qu'O-Search était prêt à investir entre 500 000 et 1 million de dollars dans cette expédition qui pourrait mener à des études innovatrices sur les mystérieuses habitudes d'accouplement des requins. Les représentants de Pêches et Océans Canada n'ont pas immédiatement répondu aux demandes d'entrevue à ce sujet. Hilton n'est pas le seul requin à avoir été aperçu près de la Nouvelle-Écosse dernièrement. Un grand requin blanc de 300 kg, affectueusement baptisé Pumpkin, a été vu dans le bassin Minas en juillet. Et un autre grand requin blanc de 900 kg nommé Lydia, qui possède aussi son propre compte Twitter géré par O-Search, compte parmi les deux squales à avoir été repérés dans la région il y a un an. Voilà, on ne parle plus d'animaux, on est cette fois-ci dans la mer, mais les grands requins aussi bougent et changent leurs habitudes et viennent un peu du côté du Canada dernièrement pour mener leur vie amoureuse.
Grand requin blanc qui a acquis une assez mauvaise réputation.
À tort.
Alors, oui, exactement, tout à fait, à partir du film qu'on connaît bien, Jaws. Mm-hmm. Alors, les gens sont mis à avoir peur des requins. Il y a assez peu d'attaques de requins.
Oui. Là.
Et ordinairement, lorsqu'ils s'en prennent aux surfeurs ou aux gens, c'est qu'il y a une confusion.
Ils se trompent, oui, effectivement.
Ils se trompent, effectivement. Ils pensent avoir affaire à des otaries ou des choses semblables.
Laissez-les avoir leur petite vie sentimentale tranquille.
Oui, on doit. Ben, tout à fait. Continue dans notre survol des oiseaux. À chaque printemps, les bécasseaux à poitrine cendrée entreprennent un voyage de plus de 10 000 km depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Arctique afin de se reproduire. Bon, ça, on l'a déjà mentionné, mais une étude vient de révéler qu'aussitôt arrivé sur un premier site de nidification qui est situé à Barrow en Alaska, des mâles poursuivent leur voyage. Ils viennent de faire 10 000 km. Ils ont eu l'étude de poursuivre leur voyage plutôt que de s'accorder un repos qui, je crois, est bien mérité. En moyenne, ils se posent un parcours supplémentaire de 3 000 km au cours duquel ils peuvent visiter une vingtaine de lieux de nidification potentiels en l'espace de 4 semaines. Donc, 10 000 km, puis tout à coup, ils décident d'ajouter un 3 000 km. Pourquoi? Le but de leur voyage? Ben, peut-être que vous vous en doutez, hein? Augmenter leur chance de se reproduire. En effet, à Barrow, en Alaska, seul un nombre restreint de mâles deviendront des géniteurs de la majorité des jeunes. Donc, la compétition est trop forte, autrement dit. Alors, ainsi, le niveau de compétition est très élevé et la recherche de nouveaux partenaires constituerait un plus grand défi pour ces mâles que les distances à parcourir. Donc, n'hésite pas à faire 3000 km de plus.
Cela ne vous aura pas échappé, nous vivons à l'ère des médias sociaux. Le problème est que dans certains cas, très rares heureusement, eh bien, il est très difficile de tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je vous emmène en Italie où il y a en ce moment une petite affaire qui fait du bruit. Bon voyage tonton Toto, voilà comment s'intitule l'article. A-t-on le droit de rendre hommage à un mafieux sur Facebook ? Après la mort de Toto Riina, le parrain des parrains siciliens, des messages de condoléances sont apparus sur les pages de ses enfants. Signalés, effacés puis rétablis, il existe donc une zone grise de modération. Presque immédiatement après la mort de Toto Riina, le parrain des parrains siciliens, les pages Facebook de membres de sa famille ont été inondées de messages. Pour beaucoup, des mots de condoléances et de sympathie pour la famille, avec des cœurs brisés, des emojis qui pleurent et des likes pour appuyer la tristesse. Hommage classique que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux après la mort d'un personnage public ? Pas tout à fait. Compte tenu du profil de Toto Riina, un des chefs mafieux les plus puissants et les plus violents du XXe siècle. Mort dans une prison de Parme, en Italie, où il purgeait 26 peines de détention à vie, il avait dirigé Cosa Nostra, le crime organisé sicilien, pendant 20 ans et tout en étant en cavale. Il était soupçonné d'avoir commandité plus de 150 meurtres, dont ceux des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, et des attentats également à la bombe à Rome, Milan et Florence. Certains des messages déposés sur les pages Facebook de ses proches souhaitaient d'ailleurs un bon débarras au mafieux de 87 ans en énumérant ses crimes. Selon un porte-parole de Facebook, les commentaires potentiellement élogieux ont été signalés en masse et les modérateurs les ont progressivement effacés au cours du week-end. Selon les conditions d'utilisation de la multinationale, il est en effet interdit d'exprimer un soutien à des organisations terroristes, le crime organisé ou tout groupe impliqué dans des actions violentes, de justifier ces actions ou de soutenir leurs leaders. Les hommages à Toto Riina remplissaient objectivement ces critères. Les enfants du parrain, dont sa fille Maria Concetta Rina, se sont à leur tour plaints à Facebook de voir les hommages disparaître de leurs murs. En quoi, ont dit les enfants Rina, encouragent-ils ou encensent-ils la violence, ou même Cosa Nostra? La plupart étaient courts, avec parfois uniquement le mot condoléance, parfois un peu plus long comme « bon voyage, tonton Toto », et ne parlaient pas du passé criminel du défunt. Dans cette zone grise de la modération, rendre hommage à un mafieux disparu équivaut-il à rendre hommage à ses crimes? Facebook a choisi de ne pas se mouiller. Interrogé par l'agence Associated Press, mercredi, un porte-parole a reconnu une erreur et après une enquête interne, les messages en question ont été restaurés. Des excuses officielles ont été faites à la famille Rina, que Maria Concetta Rina a postée sur son propre mur Facebook pour boucler la boucle. Le lendemain, Toto Rina était enterré dans le cimetière de Corleone, son village natal, pas loin de son mentor sicilien Luciano Leggio et d'une autre sombre figure de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Voilà donc pour cette disparition qui a fait grand bruit. Où peut-on s'arrêter? Où peut-on continuer effectivement sur les réseaux sociaux? Pas évident, surtout quand il s'agit de grands bandits.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono l'italiano. Uno, due. Uno, due, tre, buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, contro l'America su manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, quegli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano. Un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema, la barba, la menta, con un vestito cesato sul blu e la roviola la domenica in TV. Buongiorno Italia con caffè ristretto, le casse nuove nel primo cassetto, con la bandiera antitorrio, una 600 giù di carrozzeria. Dai, dai, dai! Buongiorno Italia, buongiorno Maria, quegli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, un italiano vero.
On vient d'entendre Marco Cagliari avec la pièce L'Italiano.
Oui, qui était pas enregistré à Corleone. Hein,
je pense. Non, je ne crois pas.
Je continue à vous parler d'oiseaux, toutes sortes de phénomènes. Hein. Ben, pour se déplacer, on sait que les oiseaux peuvent voler, planer, glisser dans les airs et sur Terre, ben, marcher, courir ou même nager. Mais ça, ça goûte un autre mode de déplacement hors du commun, utilisé particulièrement par certains cygnes. La navigation à voile. Des chercheurs ont observé ce mode de locomotion chez des cygnes en Suède. Alors, pour surfer sur l'eau, les cygnes arquaient simplement leurs ailes au-dessus de leur dos, puis ils profitaient des forts vents pour se déplacer à grande vitesse sur l'eau. Ingénieux, hein? Alors, dans tous les cas rapportés lors de cette étude, la navigation à voile a permis de mouvoir les cygnes sur quelques centaines de mètres de distance. Et ce comportement a été principalement observé sur des plans d'eau relativement petits, en terrain plat, et évidemment partant venteux. En considérant que les cygnes comptent parmi les oiseaux les plus lourds pouvant voler, ben leur déplacement peut s'avérer particulièrement coûteux sur le plan énergétique. Ces cygnes passent environ 45 % de leur vie à nager, et l'utilisation des vents pour se déplacer ben, leur rend donc la vie plus facile. Donc, navigation à voile.
Monsieur Donald Trump est souvent dans l'actualité, et très souvent pour de mauvaises raisons. Eh bien, il y a parfois de bonnes raisons, ou du moins, il crée des bonnes choses. Ne soyez pas trop sceptiques, je vous en parle. Le petit restaurant Munch's Burger Shack à Tokyo est pris d'assaut depuis que son chef propriétaire a été appelé à cuisiner pour le président américain lors de sa récente tournée asiatique. Le président Trump lui a serré la main à la fin du repas en lui disant que le burger avait été très très bon. Monsieur Yanagasiwa, le propriétaire et cuisinier, rêve d'ouvrir un restaurant à New York, où il espère que la sensibilité japonaise et l'attention aux détails lui vaudront du succès. En attendant, il va donc devoir répondre à toutes ces demandes japonaises de gens qui veulent découvrir ce burger.
Alors, les champions du recyclage. Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, les athlètes se verront décerner des médailles faites d'or, d'argent et de bronze. Ben, rien d'original. Mm-hmm. Ben, d'or, d'argent et de bronze recyclés.
Ah,
les métaux seront extraits des 650 000 tonnes de déchets électroniques produits chaque année au Japon.
Excellent.
Belle initiative.
On termine sur une bonne nouvelle. Donc, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez faire du recyclage de l'émission, nous sommes en rediffusion à 14h. Dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver Hélène Denis avec les actualités. J'aimerais remercier Michel Audet, et comme tous les mardis, également de l'autre côté de la vitre, pour la mise en onde et les choix musicaux, Jean-Sébastien Laliberté, toujours au gouvernail, et puis moi-même, Louis de Bernice, qui vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve eh bien, la semaine prochaine, comme tous les mardis matins.
En décembre.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine, au revoir.